Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Bouquet final en apothéose, le rideau est tombé hier dimanche sur la saison sportive 2024 au Cameroun. Avec le sacre historique de la colombe sportive du Djaïlobo, l'oiseau s'est envolé avec le trophée de la Coupe du Cameroun de football. Un coup d'essai traduit en coup de maître au détriment de l'aigle de la Ménois, battu 1-0 devant le représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Goûté. Dernier feu d'artifice de ce happy end dans le 13h. 24e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya ce lundi et jour de présentation des 11 équipes de la compétition. La cérémonie aura lieu à 15h cet après-midi à la place des fêtes de Minta dans le département de la Haute-Sanaga. Minta la Belle vibre déjà au rythme de cet événement. Un succès en perspective. Nous aurons dans le 13h les échos des équipes sur place, les équipes de la CRTV. Grand dialogue national, c'était il y a 5 ans. Tous les Camerounais unis ensemble pour un même idéal, la réconciliation nationale et la paix dans notre pays. Le palais des congrès de Yaoundé avait abrité cette grande messe initiée par le président de la République, Paul Biya, du 30 septembre au 4 octobre 2019. 5 ans après, le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest a pris corps et s'illustre véritablement sur le terrain. Le dossier du 13h revient sur la mise en œuvre des résolutions issues des assises de Yaoundé. Et puis le 13h ouvre ce jour une série sur les premiers secours après un arrêt cardiaque ou un AVC. L'on se souvient qu'il y a 10 jours exactement, le 20 septembre dernier, un jeune Camerounais succombait brutalement à un malaise dans un supermarché de la ville de Douala. Que faut-il faire face à ce genre de situation? Quels sont les premiers gestes à prodiguer? Quelle attitude à adopter pour augmenter les chances de survie d'une personne atteinte d'un arrêt cardiaque ou d'un AVC? Autant de questions et de réponses dans notre série de la semaine. La saison sportive 2024 effectivement refermée hier au stade Omnisport de Yaoundé. À l'occasion de la cérémonie de remise de trophée aux meilleurs sportifs de l'année, couplée à la finale de la Coupe du Cameroun de football. Cérémonie fort colorée, présidée par le représentant personnel du président de la République, Paul Biya, en la personne du premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goûté. La colombe sportive du Djaïlobo entre dans l'histoire. L'oiseau s'est envolé avec le trophée remporté devant l'aigle royal de la Ménois sur le score de 1-0. Samuel Billon.
L'histoire s'écrit en majuscule pour la colonne sportive du Djaïlobo, le profil du séducteur parfait dans la conquête de Dame Coupe. Richard Toa, entraîneur de football.
Un coup d'essai, un coup de maître. 38 ans après avoir été joueur de la colonne en 1986, vous ne savez pas quel joueur on peut avoir. Et celui qui a piloté ce groupe, c'est M. Ndoko Alain, le PCA de cette association, qui a vraiment fait beaucoup d'efforts pour que ces joueurs soient à l'abri du besoin.
Avec le but signé Boris Ekoto à la 10e minute, la colonne brise la glace. C'est la victoire de la solidarité de toute une région unie derrière son ambassadeur. Mathieu Alain Doko, président du club.
Beaucoup de remerciements à toute la population du Grand Sud, à toute la population du Cameroun. Nous avons réalisé notre rêve. Première participation, première victoire. Et nous dédions ce trophée à l'homme lion. Nous sommes déjà continental.
Série sur le gâteau, le milieu terrain, Ivan Vondo est élu homme du match de la finale. Troisième échec en finale de Coupe du Cameroun pour Aigle Royal de la Ménois. Les joueurs sont résilients.
Safar Bebeto, joueur de l'Aigle Royal de la Ménois. On a fait une très bonne saison. C'est pas la finale qui va nous faire oublier les demi-finales, les qualifications. C'est pas cette finale qui va nous décourager. L'année prochaine, on va venir rectifier le tir.
Nelson Joel Moukou, milieu terrain, Aigle de la Ménois. Une finale, il n'y a pas deux options. Soit on gagne, sont rentrés la tête baissée.
Avec ce sac, la colonne sportive du Sud établit un nouveau record en Coupe du Cameroun. 6 matchs, 0 défaite, 0 but encaissé, 14 buts marqués.
La colombe sportive du Djaye Lobo s'offre donc sa première Coupe du Cameroun face à Aigle de la Ménois. Un moment de consécration vécu avec émotion dans les tribunes et sur l'aire de jeu. Le catalyseur de ce succès se nomme Ivan Vondor au Lama. Il a été élu homme du match au terme de la partie. Le milieu de terrain de l'Oiseau du Sud échange de ce fait le statut de nouvelle recrue à celle de légende du club, Russell Oriani.
On avait à cœur de remporter d'abord ce trophée. Nous sommes très contents de l'avoir fait.
La satisfaction est totale pour Ivan Vondor Olama, à bout de souffle dans la zone mixte. Arrivé il y a à peine 6 mois, en provenance de l'Union sportive de Douala, le meneur de jeu de 25 ans savoure déjà pleinement ses premières notes de succès.
Et que ça, que homme du match, c'était pas facile, mais on a bataillé jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'être champions. Ils m'ont bien accueilli et je vais continuer de travailler pour être toujours là.
Énergique, percutant et tenace dans l'entrejeu, le milieu de terrain a fait vivre un cauchemar permanent aux défenseurs adverses. Il met son équipe sur les rails du succès d'un centre décisif, élément fort du duo d'attaque forgé avec Djamel Ekoto, l'unique buteur du match. Joueur polyvalent, vitesse de percussion, sens de l'anticipation et vision du jeu sont ses atouts maîtres, hérités de ses clubs formateurs APGS Nofou et Fondation Idriss Carlos Kamni. Une session d'apprentissage conclue sur une demi-finale de Coupe du Cameroun avec les académiciens Nofou.
J'ai d'abord fait mes classes dans APGS Nofou. Ensuite, je suis allé à Idriss Carlos Kamini Fondation, où j'ai fait pratiquement 3 ans. Je suis revenu à APGES, où j'ai été demi-finaliste. Je vais toujours continuer de travailler, de batailler dur, car beaucoup d'échéances m'attendent.
Le point de départ, surtout des rêves de domination, qui trouvent écho cette année dans un collectif rodé et porté par des ambitions de gloire sans limite. Le trophée de champion, le premier de l'histoire en Coupe du Cameroun, en est un symbole.
La colombe du Djaye Lobo a donc désormais son nom inscrit dans l'histoire de la Coupe du Cameroun et sa victoire sur l'Aigle de la Ménois lui ouvre les portes du continent. Un défi que le club devra relever la saison prochaine, longtemps après la célébration de son trophée. Le plus dur est donc à venir pour le club. Fritz Bayamak.
La victoire de la colombe du Djaye Lobo paraissait acquise d'avance. Voilà un club qui a réussi l'exploit de traverser les éliminatoires, menant à la finale de la Coupe du Cameroun sans une défaite et sans encaisser le moindre but. Sur le papier, la colombe partait largement favori face à l'Aigle de la Ménois, relégué en élite tout à l'issue du championnat national. Et comme on s'attendait un peu, l'Oiseau du Djaye Lobo a été plus fort que celui de la Ménois. Le plus dur va commencer pour le vainqueur de la Coupe du Cameroun, représentant putatif du Cameroun, à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Sur son chemin, la colombe du Cameroun retrouvera des clubs de loin plus aguerris que son adversaire de ce dimanche. Mais le club du Djaye Lobo dispose d'une saison entière pour peaufiner sa préparation à l'entrée en compétition africaine. La colombe, porte-drapeau du Cameroun, au vu de la mobilisation autour d'elle à l'occasion de cette finale, aura à cœur de faire mieux que les derniers représentants camerounais en coupes africaines des clubs. Et pourquoi pas faire comme avec la Coupe du Cameroun, d'un coup d'essai, un coup de maître.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 9 minutes à Yaoundé. Cela fait 5 ans exactement que s'est ouverte au palais des congrès de Yaoundé cette vaste concertation destinée à ramener la sérénité et booster le développement dans les 3 régions en proie aux tensions au Cameroun. Le Grand Dialogue National, une initiative du président de la République, Paul Biya, est intervenu dans un contexte de crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au sortir de cette grande messe, une série de résolutions parmi lesquelles la reconstruction et le développement de l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Un plan présidentiel en marche qui s'illustre déjà sur le terrain. Rabia Toufou Daoutou.
Renforcer la résilience, conforter le développement. Le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des régions en crise, l'une des retombées les plus marquantes du rendez-vous historique au Palais des Congrès de Yaoundé. Le Grand Dialogue National, c'était il y a 5 ans, 30 septembre, 4 octobre 2019, 5 jours de réflexion nourrie, élargie aux différentes composantes sociales, ouverte à l'échange, favorable au débat. Une instance inclusive par excellence qui est intervenue en temps de vives tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au cœur de la mise en œuvre du plan présidentiel, 3 piliers essentiels destinés à apaiser les esprits et ramener la paix durable. Revitalisation économique, réhabilitation et développement des infrastructures de base, promotion de la cohésion sociale. Le plan présidentiel fait son chemin au compteur des milliers d'agriculteurs et de pêcheurs, équipés ou rééquipés, des dizaines de points d'eau modernes bâtis, des écoles et centres de santé remis à neuf, des documents officiels détruits ou perdus, reconstitués, des routes réaménagées. Le 30 juillet dernier, un arrêté du premier ministre chef du gouvernement est venu réorganiser le plan destiné au nord-ouest et au sud-ouest, des régions qui, avec l'extrême nord, sont officiellement reconnues zones économiquement sinistrées. La mission principale demeure contribuer à la mobilisation des financements et à la coordination des interventions pour la reconstruction et le développement. Mais il est question, dans l'esprit de décentralisation, de renforcer désormais l'action des autorités locales et aussi d'ouvrir davantage les possibilités de financement et donc de partenaires d'exécution. Des réajustements plus en accord avec la réalité du terrain et les challenges à relever.
Rabia Toufouda Otou, éditorialiste. Le plan présidentiel de reconstruction et de développement sort progressivement de la phase de relèvement pour toucher les projets structurants dans la région du Sud-Ouest. En attendant, les activités s'intensifient sur le terrain afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Stéphane Tala.
Les données actualisées de la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction indiquent un élargissement des activités dans les 6 départements du Sud-Ouest. Le maire d'Alopien, Marie Foga, peut compter quelques retombées.
Ça a même encouragé beaucoup de gens qui avaient fui de rentrer parce que on a facilité les choses aux planteurs. On leur a donné les outils. Ensuite, on a réhabilité les écoles, les hôpitaux. L'impact est très grand chez nous.
Dans la localité de Fontaine, autrefois en proie aux exactions des terroristes, la population s'approprie les projets du PPRD. Docteur Nikachos Kemasson, maire.
Quand les fournisseurs viennent pour travailler, vous voyez que la population, ils cherchent les matériaux comme le sable pour l'aider. Et ils fournissent le main d'œuvre pour montrer qu'ils sont contents.
Les réalisations couvrent à date 14 secteurs pour la phase de relèvement qui compte 3 piliers, la restauration de la cohésion sociale, la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures de base et la redynamisation de l'économie locale. Les activités se poursuivent et les perspectives indiquent un passage à la vitesse supérieure. Paul Tasson, président du comité de pilotage, par ailleurs ministre délégué à l'économie chargé de la planification.
Il faut commencer à regarder ces grands projets structurants de la région du Sud-Ouest, comme la construction du port autonome de Limbé, comme la construction d'un chemin ferroviaire entre Limbé et Douala, la reconstruction, réhabilitation de la route Bikoko-Limbé-Idinao.
Les nouvelles orientations de la mise en œuvre du plan prennent en compte la contribution des acteurs locaux et régionaux pour plus d'efficacité. Boyard Stéphane Tala, CRTV.
Les résultats des recommandations dans le Nord-Ouest donnent satisfaction au plan de la reconstruction et du développement. 258 projets depuis 2021, 38 en cours, dont les projets de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda et la construction de la Ring Road. Le champ des partenaires s'est également élargi ces derniers mois avec l'entrée en scène des collectivités territoriales décentralisées et plusieurs missions de développement. Laurent Chissoukbe, CRTV Nord-Ouest.
Le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest laisse entrevoir sur le terrain de nombreux projets implémentés ou en cours d'implémentation. Les plus captivants sont le projet de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda et celui de la construction de la Ring Road. Les projets réjouissent les cœurs des populations du Nord-Ouest.
Ces travaux facilitent de plus en plus la mobilité des personnes et des biens. Ils raccourcissent le temps qu'on mettait habituellement sur cette axe-là.
Bientôt, ce sera la fin parce que les gens vraiment souffrent pour utiliser ces routes.
Au total, 250 projets ont vu le jour dans le Nord-Ouest entre 2021 et 2024. Au plan socio-économique, par exemple, des appuis multiformes sont apportés aux populations qui ont tout perdu du fait de la crise. Des intrants agricoles, des machines de transformation des produits alimentaires et plein d'autres équipements dédiés à l'auto-emploi et à la lutte contre la pauvreté. Ce cadre d'implémentation du PPRD donne désormais la possibilité aux autres acteurs de pouvoir apporter leur contribution. Le PPRD donne satisfaction dans le Nord-Ouest. L'on ne saurait l'avoir sans la tenue du grand dialogue national. Hope Station Bamenda, Laurent Chissoukbe, CRTV.
Dans l'extrême nord, l'une des trois régions bénéficiaires d'un plan de reconstruction, la métamorphose s'opère. Le programme spécial doté d'une enveloppe globale pour toute la région de l'extrême nord de 1810 milliards de francs CFA a permis de lancer les travaux de construction des infrastructures endommagées par la crise sécuritaire. Voici les précisions avec Adamo Moussa, CRTV Extrême Nord.
Dans les départements du Logone et Chari, du Mayo Sava et du Mayo Tchanaga, qui ont vu leur infrastructure scolaire, sanitaire et autres bâtiments administratifs être détruits, leur réhabilitation a commencé. Aladji Magra Massao, coordonnateur du programme spécial de reconstruction de l'extrême nord.
Nous avons réalisé des écoles, des centres de santé, équipements en table banc. Les travaux ont démarré. Certains ont déjà eu les effets positifs.
D'importants travaux de reconstruction des voies de communication sont aussi en cours pour assurer le désenclavement des bassins de production et fluidifier les échanges commerciaux.
Morada Bangakoufré, pour un montant de 204 milliards. La route Magada, Kaele Yagua et Laf Maroua. Les entreprises sont en train d'être sélectionnées.
Le programme a aussi étoffé sa collaboration avec les partenaires au développement, note son coordonnateur Aladji Magra Massao.
Nous sommes très avancés avec la Banque africaine de développement sur le développement du capital humain pour un montant de 80 milliards. Avec la Banque islamique de développement, nous sommes sur un projet sur le développement de l'irrigation.
Les défis sont nombreux. L'initiative gouvernementale poursuit sa mission de reconstruction et de modernisation de l'extrême nord après plus d'une décennie de crise. Marwa, Adamu Moussa, CRTV.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 17 minutes à Yaoundé. Une seule administration publique est en équilibre dans la gestion de son personnel. 20 sont en sous-effectif et 6 en sur-effectif. La révélation est du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lay ouvrait ce matin les conférences de prévalidation du plan de recrutement dans la fonction publique, titre de l'année 2026. Les travaux sont placés sous le thème « Rationalisation des recrutements au sein de l'administration publique camerounaise ». Constance.
La fonction publique camerounaise aujourd'hui est une fonction publique de poste de travail. À chaque poste doit donc convenir un agent public, sauf dérogation spéciale. Les conférences de prévalidation du plan de recrutement ouvertes ce matin permettent d'examiner les besoins réels en personnel exprimés par les différents départements ministériels pour l'exercice 2025. Les travaux de deux jours, organisés à l'intention des directeurs des ressources humaines et des directeurs de l'administration générale des ministères, visent surtout à édifier ces responsables sur les possibilités qui leur sont offertes pour combler leurs déficits en personnel et les accompagner dans l'appropriation de la procédure d'élaboration du plan de recrutement, de sa mise en œuvre et de l'implémentation du redéploiement des personnels. 20 administrations sur 27 en sous-effectif et 6 en sur-effectif est la manifestation d'une mauvaise répartition pour le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Les deux exposés prévus à l'intention des participants vont porter sur l'implication de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite des agents publics et le cadre réglementaire de recrutement à la fonction publique de l'État.
Les contraintes budgétaires exigent de rationaliser les recrutements au sein de l'administration publique. Écoutons le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, est au micro de Constance.
Nous avons constaté qu'au bout d'une petite étude que nous avons menée, une seule sur 27 administrations est en équilibre parfait. Donc, toutes les autres sont en déséquilibre, soit en sureffectif, soit en sous-effectif. Il s'agit donc déjà de voir l'existant, de pouvoir redéployer et ensuite de penser au recrutement. Et à propos justement de recrutement, sur les 20 premières administrations qui nous ont adressé des demandes cette année, les besoins s'élèvent à 31 000 personnels qui sont demandés. Alors que, à cause des contraintes budgétaires, nous ne pourrons pas recruter plus de 6 000. Y compris la vague des 3 000 instituteurs de l'enseignement primaire. D'où la nécessité de faire un travail minutieux. C'est ça toute l'importance et la nécessité de cet exercice que nous commençons ce matin.
En zone CEMAC, une enquête initiée par le Gabon fait état de 13 000 abandons de postes des agents de l'État. Cependant, la masse salariale ne cesse d'augmenter. Sylvain Yangman.
Ils sont 13 000 agents publics en situation d'absence irrégulière au poste. D'après les résultats de l'opération de collecte de données pour le fichier des primes des agents du secteur public, des résultats révélés par la chaîne de télévision Gabon 24, une découverte qui expliquerait la hausse de la masse salariale, selon la dernière conjoncture sectorielle élaborée par les services de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale. La masse salariale du secteur public au Gabon s'est situé à 178,1 milliards de francs CFA au premier trimestre 2024. Une fluctuation qui résulte de l'augmentation de la solde permanente, ce malgré la baisse de la masse salariale de la main-d'œuvre non permanente. Et selon l'enquête ordonnée par l'État, il s'agirait des fonctionnaires décédés, des retraités, doublons ou triplons et des homonymes à la base de la hausse de la masse salariale. Et ce malgré les opérations de toilettage initiées par le ministère gabonais de la fonction publique et du renforcement des capacités. Le Gabon comptait en fin 2023 105 800 agents de l'État, parmi eux 55 442 reconnus comme fonctionnaires. Et le Gabon a dépensé 673 milliards de francs CFA pour les salaires de tous ses agents en fin 2023, soit 7 milliards de francs CFA de plus comparé à 2022.
J'annonce à la fin de cette édition un arrêté portant nomination de responsable au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. 38e journée mondiale de l'habitat, le lancement des activités a eu lieu ce lundi 30 septembre à Ebolova. Trois membres du gouvernement, dont le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, ont conduit une marche sportive à travers la ville, suivie d'une plantation d'arbres. La journée mondiale de l'habitat, prévue le 7 octobre prochain, se prépare activement dans le sud avec une série d'activités qui auront pour point d'orgue le concours de la ville la plus propre. Retrouvons à Ebolova Anissé Siester ici du CERTV Sud.
Partie des services du gouverneur, cette marche citoyenne a traversé les principales artères de Bolova. En tête de cortège, Célestine Ketia-Cortès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Minette Libon-Liliquin, des Postes et Télécommunications, et Mounouna Fotso. Avec à leur côté le gouverneur Félix Nguelenguele et le président du conseil régional du Sud. Cette marche a également vu une forte mobilisation des jeunes, tous unis pour affirmer leur engagement à bâtir un avenir urbain durable. Un des moments forts de cette journée a été la plantation d'une dizaine d'arbres au siège du centre linguistique des Bolova. Un geste symbolique qui rappelle l'urgence de préserver l'environnement dans les villes en pleine expansion. En début d'après-midi, une conférence de presse est prévue avec le ministre de l'Habitat. Célestine Ketia-Cortès reviendra sûrement sur les actions prioritaires du gouvernement et l'importance de l'implication des jeunes dans l'urbanisation. Cette mobilisation n'est qu'une première étape des festivités prévues pour le 7 octobre prochain. Ebolova, déjà couronnée par le passé, ville la plus propre du Cameroun, continue de s'inscrire dans une dynamique de développement urbain durable. Ebolova, Anissé Sesterissian, CRTV.
Air protégé du Cameroun, il faut relever le défi de la gestion transfrontalière. L'espace et tridome partagé entre le Gabon, le Congo et le Cameroun doit continuer à jouer son rôle de régulateur du climat et de conservateur de la biodiversité. Pour y arriver, le projet Biodiversité et Développement Durable du Paysage Trinational Dja Odzala Minkebe devra accompagner les trois pays à l'atteinte de cet objectif grâce à un financement de l'Allemagne à hauteur de 10 millions d'euros. Il y va de la conservation de ces complexes transfrontaliers. Lynn Renée Batongué.
Le trinational Dja Odzala Minkebe, appelé Tridom, est un complexe transfrontalier d'aires protégées que partagent en commun le Cameroun, la République du Congo et le Gabon. C'est une écorégion de forêts tropicales denses et humides de l'ouest du bassin du Congo, jugée prioritaire pour la conservation et la gestion durable des ressources naturelles en Afrique centrale. En tant que zone à forte couverture forestière et à faible déforestation, le tridome joue un rôle important dans la régulation du climat mondial et dans le régime hydrologique régional. Ce massif reste néanmoins confronté à plusieurs menaces et problèmes dus aux activités anthropiques, à savoir la recrudescence du braconnage et la déforestation, principalement dues à l'exploitation forestière illégale, à l'agriculture sur brûlis, à l'extraction minière et à l'expansion des infrastructures qui renforcent la rupture des équilibres écologiques et compromettent la biodiversité. La partie camerounaise du Tridom couvre 5 aires protégées, à savoir la réserve de biosphère du Dja, la réserve de faune de Ngoïla, les parcs nationaux de Boumba-Bek et de Nki et le sanctuaire Agori de Mengame. Le projet Upo-Tridom, financé par le gouvernement fédéral allemand à travers son ministère fédéral de la coopération économique et du développement, la BMZ, et son outil technique, la GIZ, sera exécuté sur une période de 4 ans au Cameroun, en République du Congo et au Gabon.
Éducation, le comité de développement du village Boanéboa, arrondissement de Lonako, dans le département du Mungo, région du littoral, soutient l'éducation des élèves de la localité. Le CODEVI Bois a procédé ce week-end à la remise des fournitures scolaires, équipements sportifs et matériels pour l'ouverture d'une cantine scolaire, l'une des innovations de son action cette année. Voici les détails avec Agnès Sylvie Nanzama.
La joie se lisait sur les visages de ces élèves qui ont reçu chacun un cartable plein de fournitures scolaires. Le comité de développement du village Boanéboa, qui a choisi de faire de l'éducation de la jeunesse de la localité l'une des priorités de son action, apporte une innovation majeure cette année. Son président, Victor Koto Koto.
Nous avons remis un paquet minimum, un budget de fonctionnement des enseignants, le clou de tout. Nous avons remis le nécessaire pour le démarrage de la cantine scolaire.
L'ouverture de la cantine scolaire permettra de fournir un repas chaud à une trentaine d'élèves au quotidien. La cérémonie du 27 septembre a aussi été l'occasion pour le CODEVI Bois de remettre à chaque élève un équipement sportif. Le premier adjoint au maire des Bonnets, Théophile Jokanto Njoumé, a saisi cette opportunité pour lancer un appel à une plus grande participation des populations aux initiatives de développement.
Nous sommes satisfaits du travail qu'a fait le comité de développement de Boanéboa. Les comités de développement de 22 autres villages doivent copier l'exemple.
L'école publique de Boanéboa s'est enrichie d'un nouveau bâtiment, offre une formation à cycle complet. Le directeur de l'école, le représentant des parents d'élèves et le porte-parole des élèves ont uni leurs voix pour exprimer leur gratitude à toute l'élite de Boanéboa.
24e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le premier coup de pédale sera donné demain 1er octobre dans la localité de Minta, département de la Haute-Sanaga, région du centre. La cérémonie de présentation des 11 équipes engagées dans cet événement sportif et culturel a lieu cet après-midi dès 15h à la place des fêtes de Minta. La ville est donc prête à accueillir la caravane et la mobilisation est complète dans la Haute-Sanaga. Vous écoutez le 13h, voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais. Drusilla Mokosojuki.
Good afternoon. Efforts made in the reconstruction of the northwest and southwest regions, hard hit by the ongoing socio-political crisis, have come to the fore 5 years after the major national dialogue, during which recommendations were made to improve the welfare of citizens. Over 2,000 Cameroonians from the 10 regions of the country and the diaspora attended to brainstorm on ways to find lasting solutions to the problems plaguing the northwest and southwest regions, as well as other problems in the country. The decision to organize the history gathering continues to be seen as a gesture of good faith from President Paul Biya to reconcile Cameroonians and preserve the peace and unity and cohesion that the nation is reputed for. Development projects covering road infrastructure, economic recovery, education, health, and tourism are ongoing in both crisis-affected regions, benefiting from a special status. And a major spin-off of the national dialogue has been the gradual return to normalcy in the northwest and southwest regions, following the laying down of arms by some hardened terrorist separatists and government assistance to the internally displaced populations, among others. Supporters of Colombe Sportive of Dja and Lobo are still in celebration after the club won the Cup of Cameroon for the first time in 60 years yesterday. They defeated Aigle Royal of the Menua by 1-0 in the final at the Amadou Ahidjo Stadium that was watched by 30,000 fans. The match that marked the end of the 2024 sports season was presided over by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gauthier, who represented the President of the Republic, Paul Biya. And a ceremony to present teams that will compete for the yellow jersey at this year's Grand Prix Cycliste International Chantal Biya will take place this afternoon at Minta in the Upper Sanaga Division of the Centre Region. 11 cycling teams from Europe and Africa will compete on the five-lap event that will take cyclists from the Centre Region to the South and back. These and more at 3 p.m.
Le ministre des Finances, au regard du fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription des déclarations, porte à la connaissance des contribuables non professionnels soumis à la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques que le délai y afférent est prorogé au 1er décembre 2024. Aussi, le ministre des Finances félicite-t-il ceux des nombreux contribuables qui, à date, se sont conformés spontanément à cette obligation fiscale. Le ministre des Finances précise en outre que le non-respect de cette obligation déclarative ouvre droit à l'application des sanctions prévues par le livre des procédures fiscales. Afin de faciliter les déclarations des contribuables concernés, des équipes de veille ont été mises en place dans leur centre des impôts de rattachement et au sein de la Direction générale des impôts, ainsi qu'un dispositif d'assistance en ligne, notamment un centre d'appel téléphonique numéro vert gratuit 8200, une plateforme électronique d'assistance Helpdesk accessible sur la page d'accueil du site de la Direction générale des impôts www.support.harmonie2.cm, un numéro de messagerie 691-881-881 pour les contribuables résidant à l'étranger. Le ministre des Finances compte sur le civisme fiscal de tous. À présent, cet arrêté portant nomination de responsable au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation sont à compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après dans les services déconcentrés du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Centre régional de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Centre, chef de centre, M. Zoazoa Joseph Yves, maître de recherche, précédemment chef de la cellule de promotion de l'innovation à la division de l'appui à la promotion de l'innovation, à remplacement de Mme Akoa Etoa Joséphine Mireille, remise à la disposition de l'Institut de Recherche Agricole pour le Développement. Service de la Recherche scientifique, chef de service, M. Ekane Epe Aurélien Jean-Jacques, cadre contractuel d'administration, précédemment chef de service de l'innovation dans le même centre, à remplacement de M. Minkoulou Augustin Fernand, muté. Service de l'innovation, chef de service, M. Minkoulou Augustin Fernand, cadre contractuel d'administration, précédemment chef de service de la recherche scientifique dans le même centre, à remplacement de M. Ekane Epe Aurélien Jean-Jacques, muté. Service des affaires générales, chef de service, Mme Bouemba Djombe Yannick Carel, cadre contractuel d'administration, précédemment chef de bureau des affaires administratives et financières dans le même centre, à remplacement de M. Mota Raphaël, remise à la disposition du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Centre régional de la recherche scientifique et d'innovation du Nord, service de la recherche scientifique, chef de service, Mme Eko Koupna Christiane Claudette, attachée de recherche, précédemment chef de bureau de la planification dans le même centre, à remplacement de M. Yaya Faudoué, remise à la disposition de l'Institut de recherche géologique et minière. Centre régional de la recherche scientifique et de l'innovation de l'Ouest, service de l'innovation, chef de service, M. Focom Wofo David, chargé de recherche, précédemment en service à la station de l'Institut de recherche agricole pour le développement de Banganté, à remplacement de M. Mekonso Antoine, mise à la disposition de l'Institut de recherche agricole pour le développement. C'est signé le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation, Madeleine Tuente. Sept autres arrêtés portant nomination des responsables au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation sont à compter de la date de signature du présent arrêté nommé au poste ci-après dans les services centraux du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, secrétariat général, cellule de communication, chargé d'études assistant numéro 1, M. Onana François Xavier, cadre contractuel d'administration, précédemment chargé d'études assistant numéro 2 dans la même cellule, à remplacement de M. Tchèque Ayassi Romy Ledoux, surtout appelé à d'autres fonctions. Chargé d'études assistant numéro 2, Monsieur Eyon Terence Yatani, cadre contractuel d'administration, précédemment chargé d'études assistant numéro 2 à la cellule de coopération internationale, à remplacement de Monsieur Onana François Xavier, appelé à d'autres fonctions. Cellule juridique, chargé d'études assistant numéro 1, Madame Bilongo Elémé Laure Marguerite, chargée de recherche, précédemment en service au Centre national de l'éducation, à remplacement de Madame Lady Jeannette Muté. Centre de la documentation et des archives, service de la relance, chef de service, Monsieur Swahibou Mal Haman, cadre contractuel d'administration, précédemment chargé d'études assistant numéro 4, à la cellule de promotion de l'innovation, à remplacement de Madame Alain Francine, mise à la disposition du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. La suite de ces nominations dans notre édition du 17-18. À retenir de cette édition qui s'achève, grand dialogue national, c'était il y a 5 ans. Tous les Camerounais unis ensemble pour un même idéal, la réconciliation nationale et la paix dans notre pays. Le palais des congrès de Yaoundé avait abrité cette grande messe initiée par le président de la République, Paul Biya, du 30 septembre au 4 octobre 2019. 5 ans après, le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest a pris corps et s'illustre véritablement sur le terrain. En sport, bouquet final, en apothéose, le rideau est tombé hier dimanche sur la saison sportive 2024 du Cameroun avec le sacre historique de la colombe sportive du Jaé Lobo. L'oiseau du sud s'est envolé avec le trophée de la Coupe du Cameroun de football. Et puis, 24e cycliste international Chantal Biya, ce lundi est jour de présentation des 11 équipes de la compétition. C'est la fin de cette édition du 13h, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.